France Culture.
Là, la bouche, elle est pas, elle travaille pas. C'est que avec les mains et les yeux. Donc, si vous voulez poser des questions,
que faites-vous?
En fait, là, j'aiguise la machine parce que déjà pour faire du bon travail, il faut qu'on ait un bon matériel. Du coup, il faut que la machine elle coupe bien. Sinon, ça risque de traîner trop et ça peut donner du mal de dos.
De quelle machine s'agit-il?
En fait, ça, c'est une tronçonneuse. C'est ça qui a remplacé
Abdallah Doubacha,
la hache à l'époque pour faire
charpentier de marine.
Les pirogues, où nous, on n'utilisait que les haches, des pics, des pioches, des trucs comme ça. Mais de nos jours, heureusement, il y a les machines qui sont là, qui nous facilitent un peu la tâche.
Donc là, on se trouve à côté du stade de Canibé. Il y a un énorme tronc d'arbre. C'est quoi ce tronc?
Eh bien, ça, c'est un tronc de manguier qu'on m'a ramené ici justement pour faire une pirogue. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour commencer, on va vider déjà à l'intérieur et puis voir si on pourra commencer de faire à l'extérieur. Mais ce n'est pas sûr. Parce que c'est du travail, ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'efforts en plus.
Mayotte, dernier des départements. Quatrième épisode, un lagon en partage. Un documentaire de Raphaël Kraft et David Jakubowiez.
Walozi wasi jiviwa, wasirengele zazi shambwi, pare walowe. Butsai misi urose, utie filakani. Butsai misi urose, utie filakani. Butsai misi urose, utie vipani. Butsai misi urose, utie filakani. Bahari il a la choix de se dire l'eau est comme d'huile. Fizisiraya, donc on voit les petits poissons qui, c'est les sardines qui sont. Et Walozi aussi, quand ils voient ça, les pêcheurs sont contents, heureux, quoi. Et donc, ils préparent leur hameçon pour qu'ils puissent pêcher. Et puis, dans la chanson, je dis, vous avez mis si Walozi, tu es fait. Tu lances ton hameçon et tu tires et tu jettes ton poisson dans la pirogue, quoi.
Comment vous avez appris à fabriquer des pirogues?
En fait, ça, c'était le travail de mon papa. Lui, il faisait ça. Il a toujours travaillé le bois. Mais à son époque, c'était dur. Maintenant, avec les moyens qu'on a, je pense qu'en une semaine, c'est faisable une pirogue. Je peux tout faire. Le carburant...
Votre père qui vous a transmis ce savoir-faire, c'était un fundi?
Oui, c'était un très grand fundi. D'ailleurs, à l'époque, c'était lui qui faisait la plupart des pirogues d'ici.
C'est quoi un fundi?
En fait, le mot fundi signifie un maître. Mais lui, c'était un maître piroguier. Okay.
Et vous-même, vous êtes un fundi maintenant?
Maintenant, malheureusement, je suis le dernier. Et jusqu'à là... J'ai pas d'élèves parce que, en fait, c'est les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils sont pas trop intéressés à faire ce genre de travail. Déjà, moi, à vrai dire, je n'aimais pas faire ça, mais au fur et à mesure, il m'a obligé. Finalement, j'ai commencé à aimer la chose. Maintenant, vraiment, j'en suis amoureux. Et surtout, ma femme me respecte grâce à ça. Ça fait un litre. C'est une grosse machine.
Tout
toi.
Bouge pas. Recule un peu, hein. C'est bon? Ok, je bouge pas. C'est bon. Bravo François. C'est bon.
C'était une première pour vous?
Ouais, en bateau, ouais. C'est quelque chose.
Oriane Serval.
J'étais pas du tout en maîtrise totale, du coup.
Biologiste à l'Association des naturalistes de Mayotte. Qu'est-ce qui se passe?
Là, on a programmé un vol. Un vol de drone, oui, du coup. Et l'objectif, c'est que on programme un petit carré sur la carte. Et dans ce petit carré, le drone, il va faire une trajectoire qu'on lui dit de faire. Et l'objectif, c'est que on échantillonne avec des images vues du ciel et on voit s'il y a des mammifères marins sur la zone. Pour David, donc c'est assez, ou dugong pour moi.
C'est l'objet de cette sortie en mer, les dugongs.
Alors aujourd'hui, c'est spécialement pour l'étude des dugongs. Donc il y a toute une partie avec Oriane sur le survol
David Lorieux
au drone pour des observations visuelles.
Chargé de mission à l'association CETA Maoré.
Et nous, on aimerait bien coupler ça avec de la bioacoustique passive. Donc, passive parce qu'on met juste un hydrophone, on ne va pas poser du son, on va juste récupérer le son. Et en couplant ça, on pourra avoir plus d'informations sur cette espèce. Oui.
Donc, j'allume l'hydrophone, on va prendre les sons ambiants. On est le 14 mars, il est 11h, on est au niveau de Msamboro et c'est la première fois qu'on le met dans l'eau pour du son ambiant.
Gâteau maorez.
C'est un pilon.
Oui.
Un très beau gâteau. Je vois que vous avez un caractère plutôt expansif. Et lorsque vous êtes devant votre maman, vous la ramenez pas trop.
Pas du tout. Parce que voilà, il y a trop de respect envers nos mamans. Donc,
Chaga, président de l'Association des Jardins Océaniques de Mayotte.
Quand on est dehors, on essaie de s'affirmer. Mais dès qu'on arrive devant la maman, c'est la matriarche. Donc on est obligé de se faire tout petit.
Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Moi, je m'appelle Ankoubranizé. J'habite à Kanibé.
Et vous avez les yeux bleus.
Elle dit qu'elle est née comme ça.
C'est magnifique.
Magnifique. Parce que je suis allé à la.
Elle t'a prêté.
Je suis venu voir votre fils pour parler du lagon. Et je voulais que vous me racontiez, quand il était petit, comment vous le corrigiez quand il allait dans la mer.
Donc en fait, elle disait... que c'était pour mieux nous contrôler, en fait, par rapport à tout ce qui se passait dans le lagon. Et le fait qu'il y avait l'arrêt Pastenag, il y a l'arrêt Manta. Et à partir de là, en fait, les mamans, ils ont pris peur. Malgré tout, elle fait la pêche au Djarifa. Ça fait plus de 40 ans qu'elle fait ça.
C'est une pêche à pied au filet.
Oui. Donc, elle avait peur qu'on se noie, elle avait peur qu'on soit pris par ces bêtes-là. Parce que dans leur tête, elles pensent que voilà, la remanta, elle était agressive ou ça pouvait pomper le sang, sucer le sang. Donc c'est ce qu'elles pensaient.
Et donc elles vous racontaient tout un tas d'histoires.
Oui, elles nous racontaient tout un tas d'histoires pour mieux nous contrôler. Parce que voilà, c'était des familles nombreuses. Donc nous, chez nous, on est 10. Donc pour contrôler les 10 enfants, c'était aussi rajouter de la peur dans notre esprit. Après, il y a aussi des esprits qui peuplent les mangroves, donc il y a toute une histoire et je dirais des mythes qui sont liés avec le lagon ici à Mayotte, quoi.
Et c'est quoi les esprits qui peuplent les mangroves?
Les esprits en question, c'est on dit Mwanaïssa.
C'est quoi
Mwanaïssa? C'est à peu près comme les djinns, ils sont très poilus, ils ont un bras plus fin que l'autre. Et j'ai entendu que si, par exemple, on a affaire au Mwananisa, il faut attraper le bras qui est petit, là. Il faut le bloquer, parce que si tu as la malchance de bloquer le gros, c'est le petit, là, qui l'utilise plus, en fait. Et ce que j'ai entendu aussi, parce que moi, je ne les ai jamais vus, c'est qu'ils sont très violents, à ce qui paraît. Donc,
Et les djinns ?
Les djinns, ça va, on peut les sentir quand ils sont à un endroit. On a soit une source de chaleur ou on a les poils qui se dressent. C'est dans notre quotidien, donc on vit avec. C'est tout, c'est tout.
Digan, digan.
Comment dire en chimarais ?
Boja, non.
L'amboara.
L'amboara.
L'amboara. Vous trouvez ça joli, un dugong ?
Oui, mais il fait peur.
Il fait peur ?
Oui.
J'aimerais pas le croiser dans la mer.
Ici, on dirait un bulldog.
Pourquoi il vous fait peur ?
Ça, parce qu'il est gros, sa taille et son visage a l'air un peu méchant, quoi.
Est-ce qu'ils sont méchants ?
Non.
Est-ce qu'ils peuvent te manger ?
Non.
Ils sont inoffensifs. Et j'ai une question. Le dugong, il fait combien d'enfants par an ?
Alors, il va faire un enfant par an, mais c'est pas tous les ans qu'il va pouvoir le faire. Il peut faire un enfant, donc un petit, et ensuite 3 ans, 5 ans, 7 ans après, il pourra en faire un deuxième. Donc c'est très très lent. Et à Mayotte, t'as dit qu'il y en avait combien ?
Moins de 6.
Entre 6 et 10. C'est pour ça que la population elle est en danger et qu'il y a ce plan national d'action pour protéger le dugong. Allez, on termine les cartes.
Qu'est-ce que vous voyez, Oriane ?
En gros, sur ma radiocommande, j'ai un petit écran qui me montre ce que filme la caméra de mon drone. Et pour l'instant, on voit de l'eau. Mais pas spécialement de vie qui se dessine sous l'eau.
Où est-ce qu'on se trouve exactement ?
Donc là, on se trouve sur l'îlot de Msamboro, au nord de l'île de Mayotte. Et l'îlot de Msamboro, c'est une zone cible qui nous intéresse dans le cadre du protocole. Déjà parce qu'on a des herbiers marins et les dugongs se nourrissent essentiellement d'herbiers. Et aussi parce qu'il y a des observations régulières d'un dugong mère avec son petit, un veau, qui ont été faites. Et ces dernières semaines, ça a été relaté à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on prospecte cette zone.
Parce que la particularité du dugong, c'est qu'il est extrêmement craintif et qu'il est très rare de pouvoir l'observer.
Oui, il est plutôt craintif de nature, mais surtout dans le cas de Mayotte, on a une population qui est très faible, dans un lagon qui est énorme. Et du coup, on essaye de développer plein de méthodes d'observation différentes, notamment le drone, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. L'an dernier, ils ont essayé de développer l'ULM. Et en partenariat avec l'Université de Montpellier, on a essayé de développer des outils génétiques aussi.
Donc on prend de l'eau et on regarde s'il y a l'ADN du dugong dedans.
Oui, exactement. En fait, on part de l'hypothèse que dans l'environnement, une espèce libère des fragments d'ADN qu'on peut récupérer, mais ça demande beaucoup de validation en laboratoire et beaucoup d'années de développement.
Mais là, il vous faut contrôler le drone, c'est ça ?
Et là, il me faut contrôler le drone.
On est sur une île tropicale, habitée, sur laquelle il y a une pression démographique qui est assez considérable.
François Bedard.
On parle parfois d'une densité parisienne.
Directeur de l'Association des naturalistes de Mayotte.
Ah, donc vous imaginez, voilà, les pressions sur les milieux naturels, sur les ressources naturelles sont importantes. La crise de l'eau, on consomme plus d'eau que l'on en produit. Voilà, il y a tout un tas de difficultés et la biodiversité est parfois un peu le dernier volet sur lequel on se préoccupe parce que souvent on pense bien entendu aux humains et essayer de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans des conditions normales, etc.
Alors il y a eu moins d'une dizaine de dugongs selon les estimations qui sont les vôtres. Pour quelles raisons ?
Il a été une proie très facile et sa viande était appréciée des pêcheurs il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, l'idée pour nous, c'est aussi d'essayer de savoir si les dugongs maorais, les dugongs comoriens, les dugongs malgaches ont des liens de parenté, si finalement ils ne font partie que d'une seule et même famille et qu'il y a des flux de population entre les îles. Si c'est le cas, alors on peut imaginer que plus tard, s'il y a des endroits protégés qui permettent aux dugongs de se reproduire, aux dugongs de rencontrer un mâle ou une femelle, former un couple et ensuite d'avoir une progéniture, eh bien, on pourrait imaginer que leur survie est possible. Si effectivement on a une disconnexion entre ces différentes îles parce que le nombre d'individus est devenu trop bas, eh bien, ce serait plus difficile pour les populations. Aujourd'hui, sur la côte, en tout cas sur les récifs frangeants, où il y a énormément de d'herbiers intertidaux, donc qui sont dans les milieux du balancement des marées, eh bien, ces milieux-là sont extrêmement exposés aux apports terrigènes qui viennent de l'érosion des sols des bassins versants, donc liés à la déforestation, aux mauvaises pratiques agricoles, aux chantiers d'urbanisation qui sont mal maîtrisés, sur lesquels les terres sont finalement balancées au lagon, en quelque sorte. Et puis, on est dans un climat tropical, donc on a des pluies très fortes qui amènent tout ça dans le lagon. Donc là, ces apports terrigènes, les pollutions diverses et variées peuvent avoir un impact très très fort sur la qualité des eaux, sur la qualité des aires d'alimentation des dugongs et donc engendrer forcément des dommages collatéraux. Enfin voilà, c'est un cadre paradisiaque, l'eau est translucide, il y a du sable blanc, et de se dire que tout ça petit à petit se dégrade par ces différentes pollutions, c'est malheureux. Donc il y a vraiment un effort à faire encore au niveau de la protection de l'environnement sur Mayotte.
J'ai assisté à des activités qui ont été mises en place dans une école par rapport à la protection de la mangrove. J'ai fait des entretiens avec les élèves pour mieux comprendre ce qu'ils avaient appris. J'ai demandé aux enfants de dessiner la mangrove, ce qu'ils ont fait en dehors de l'école. Certains ont dessiné l'écomusée que vous voyez ici, donc le sel, la bandrelée. On va produire le sel dans la mangrove.
Georgetta Stoica.
Ils avaient des connaissances, les élèves. Ils étaient gentils, ils répondaient à mes questions.
Anthropologue à l'université de Mayotte.
Mais on sait très bien, si on n'a pas, en tant qu'anthropologue, la confiance, les enfants veulent me dire ce que je veux entendre. Or, quand je vais sur le terrain, je passe plus de temps. Et après 2 semaines, j'ai interrogé le professeur des écoles qui m'a dit que les enfants l'ont questionné en lui disant « Maître, ils vont nous déloger de nos bangas qui se trouvent dans la mangrove. Ils veulent bien protéger la mangrove, mais nous, on ne sera plus là. » Donc vous voyez, c'est une certaine peur qui arrive derrière par rapport à cette protection de l'environnement. Parce que si on parle des habitants de Mayotte, il faut vraiment prendre en considération tous ceux qui habitent à Mayotte. On dit souvent « interdit de laver la lessive à la rivière ». Alors après le cyclone Chidon, on se retrouvait tous, presque tous, à faire la lessive à la rivière. Les anciens endroits qu'on utilisait pour faire la lessive avant l'arrivée des machines à laver, tout d'un coup on les a redécouverts. Et encore, il y a des habitants qui utilisent ces rivières quotidiennement parce qu'ils n'ont pas un autre moyen pour faire la lessive. Et on dit aux petits dans les écoles, tu diras à maman de ne pas faire la lessive à la rivière. Et elle doit utiliser une lessive écologique qui ne pollue pas. Et où je vais trouver cette lessive qui ne va pas polluer la rivière? D'où l'importance de ces recherches interdisciplinaires qu'on pourrait avoir et d'un dialogue qui doit exister. On parle d'une co-gestion des best practices, des bons exemples, mais ça existe vraiment, ces best practices? Comment on va faire une co-gestion? Vous voyez? Est-ce que c'est les personnes sont ceux qui ont l'habitude de faire cela ou j'arrive vraiment à parler avec tous ceux qui vivent à Mayotte? Qui sont là. À Mayotte, on dit « Mvani », on est là. On est à Mayotte.
Donc on est face à un tronc qui fait quasiment 1 mètre de diamètre.
Oui, à peu près, oui.
Et elle va ressembler à quoi, cette pirogue?
En fait, une pirogue normale, c'est comme... On l'appelle ici chez nous
le Laka.
Laka, oui. En fait, c'est une embarcation de fortune.
La petite pirogue pour deux personnes, elle mesure combien?
Voilà, à environ 4,50 m à 5 m, mais ça peut être plus que ça.
Et de large?
À partir de 70 cm, là c'est pour une personne, mais ça peut aller au-delà, jusqu'à presque un mètre.
Alors, pour maintenir son équilibre sur l'océan, il y a un balancier, c'est ça?
Bien sûr, il faut un balancier, sinon ça tient pas, ça tient pas la route. Du coup, voilà, tu prends, tu fais comme ça, tu le mets ici au milieu là.
Ouais, en fait, je crois que je vais poser le micro comme ça. Je l'enroule autour de mon doigt.
Et puis voilà.
Alors j'ai pris le milieu, ton milieu, hein. C'est bon.
Oui, oui. Là, tu veux bien aller un peu plus.
Tu veux dire je bouge le fil?
Oui, oui, tu le bouges, tu l'amènes. Voilà. Je vais taper. Hein. Ok.
Donc le principe là, c'est de tendre la corde.
Voilà.
Le long du tronc,
voilà,
qui n'est pas droit, et de faire claquer la corde sur le tronc afin que l'encre se diffuse dans toute la longueur malgré les aspérités du matériau.
Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit comme ça, sinon la pirogue ne sera pas droite. S'il n'est pas droit, tu rames, ça te complique la vie. Parce qu'à chaque fois, il faut essayer de le redresser parce que ça tourne autour d'elle-même si elle n'est pas bien droite.
Ok.
Diminue un peu.
Donc votre règle, c'est un petit bout de bois trouvé par terre.
Voilà. Il faut juste que les deux côtés soient
égaux.
Basse.
Donc on trempe à nouveau la corde dans une casserole où on a mélangé du charbon de bois et de l'eau.
La qualité de l'encre qu'il y a, c'est pas terrible. Mais on va se contenter de ça.
Voilà.
Oh merde, j'en ai foutu partout. Oh. Bon, là, tu vois que c'est bien visible. Là. Là, c'est bon. On voit clair là où il y a la trace.
Bon, super.
C'est bon.
Bonjour.
C'est lui que je t'en dis.
Vous êtes le neveu?
C'est ça.
Votre prénom, c'est
Daouda.
Enchanté.
Également.
Vous êtes militaire?
Non, je suis gendarme.
Ok.
C'est militaire quand même.
Il est venu là pour Chido. Mais comme il est là, moi je vais en profiter pour le faire travailler un peu. Justement.
Les enfants, hein, les jeunes sont corvéables à merci.
Oui. Les anciens disaient qu'en fait, un jeune, c'est comme un laka. Un laka, justement, c'est ce que nous faisons ici.
Comme une pirogue.
Ça ne se fatigue pas. Quelqu'un revient avec de la pêche, un autre le prend et le ramène, c'est jamais fatigué. Et je pense qu'ils avaient raison quand ils disaient ça. Les gens, ils vont acheter des pirogues, mais en plastique, en résine, je veux dire. En bois, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout que Mayotte est si petit, on n'a pas beaucoup de bois non plus. On ne peut pas se permettre de couper à chaque fois pour satisfaire les gens. On finira mal.
Et depuis la départementalisation, depuis la création du parc marin, il y a beaucoup moins de pêcheurs sur le lagon.
Justement, il y a trop de réglementations. En fait, ça pousse les gens à plutôt aller vers les vedettes plutôt que les pirogues.
Parce que les pirogues sont considérées comme des engins de plage.
Justement, parce qu'ils trouvent que c'est dangereux, c'est pas une embarcation digne de faire la pêche. Quoi.
Ça vous peine, vous?
Moi, oui, parce que si c'était dangereux depuis toujours, Mayotte, on a vécu avec ça et il n'y a jamais eu de souci. Mais pourquoi aujourd'hui ils viennent nous mentir? Une pirogue, c'est une embarcation vraiment fiable. Avant, c'était non seulement un moyen d'aller à la pêche, mais c'était aussi, on les utilisait comme taxi à l'époque où il n'y avait pas de route ici dans le sud surtout. Les gens, ils prenaient le laka, en fait la pirogue. Il y en a qui utilisaient avec des rames. Mais il y en a d'autres aussi qui le faisaient avec des voiles. Et c'était pratique. Il n'y a jamais eu de souci.
La plupart des parcs en France, c'est des années de discussion.
Jean Hudberet.
Là, ça, le parc de Mayotte.
Économiste.
C'est fait en même temps que la départementalisation.
Spécialiste des aires marines protégées.
Et du coup, ça s'est fait rapidement. En gros, ça s'étale sur 3 ans. Mais la phase de mise en discussion du parc avec les communautés locales, avec les habitants, elle a duré à peu près 9 mois. 9 mois, c'est extrêmement rapide. Il y a eu un travail pour essayer que les gens soient représentés, mais il y avait cette espèce de calendrier, cette espèce d'idée que nous, on a d'ailleurs retrouvée en Polynésie française, que si les gens ne s'opposent pas, c'est qu'ils sont d'accord. Et ça, à mon avis, c'est un vrai problème. C'est pas parce que les gens ne s'opposent pas qu'ils sont d'accord.
Donc il y a eu effectivement des promesses, un centre de recherche de l'Ifremer, l'emploi de personnes locales, le développement de la pêche. Et 15 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé.
Oui, alors je pense que le parc, il fonctionne finalement comme fonctionnerait un parc métropolitain, avec beaucoup de travaux sur l'écologie marine. Mais après, là où c'est compliqué, c'est notamment sur la question des activités vivrières et de pêche commerciale éventuellement. Hein, mais c'est quand même ça qui concerne, qui intéresse la population. Et c'est là où je pense qu'il y a peu de moyens qui ont été mis. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, effectivement. Hein. Et puis, je pense qu'à la base, il y a quand même un malentendu fondamental. C'est-à-dire que la façon dont le parc a été fait, avec cette idée de mettre aux normes le territoire par rapport à la métropole. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais voilà, la pêche, c'est quoi à Mayotte ? À l'époque, donc au moment de la création du parc, c'était quelques navires palangriers, détenus par des métropolitains essentiellement, hein, des barques de 8 mètres motorisées homologuées, à peu près 150. Donc ça, c'est ce qui est reconnu comme la pêche par l'administration française. Pourquoi ? Parce que les gens ont les diplômes nécessaires et les navires ont le matériel de sécurité nécessaire. Mais après, tout le reste qui n'est pas reconnu comme de la pêche, c'est représenté dans le comité de gestion, dans le collège des activités récréatives. Autrement dit, vous vivez de la pêche avec votre pirogue, vous êtes représenté au même titre que la personne qui va faire du kayak sur le lagon. Ça pose quand même un problème. Donc il y a une forme de... Voilà, on veut appliquer à Mayotte une réglementation métropolitaine française qui ne correspond pas à la réalité mahoraise, pas du tout.
Un modèle typiquement occidental.
Voilà, donc là ça rejoint la question du colonialisme, qu'on appelle colonialisme vert. C'est une forme de colonialisme soft, hein, c'est-à-dire on s'accapare pas comme on le faisait avant, mais on importe des normes qui de fait vont exclure un certain nombre de gens. Là, cette norme-là, elle exclut en fait toute une partie de la pêche mahoraise d'une forme de représentation dans la gouvernance du parc. Après, il y a dans les politiques environnementales, on nous répond assez souvent, oui, mais il y a une urgence climatique, il y a une urgence pour la biodiversité, etc. Donc, ça justifierait d'imposer un modèle tel quel, sans le discuter, voilà. Or, comment on veut conserver une 68 000 kilomètres carrés, hein, comment on veut surveiller ça sans l'adhésion et l'appropriation du parc par les Mahorais? C'est impossible. Donc pour être efficace, il faut prendre le temps de adapter ce modèle, le rediscuter, le mettre en discussion, s'intéresser à la culture maritime, effectivement, locale. Ça prend du temps, mais peut-être qu'on perd du temps à un moment, et on en gagne, parce qu'à un moment, ça peut devenir efficace. Bon, déjà, au moment où on s'est intéressé au parc, l'équipe du parc, il y avait quand même 2 problèmes. Il y a très peu de Mahorais, donc il y a très peu de gens qui parlaient la langue locale. Hein. En gros, ils étaient 2, hein, sur une équipe d'une 30aine de personnes. Il y avait l'essentiel des agents du parc, ce sont des écologues, donc acquisition de connaissances. Je ne conteste pas du tout l'intérêt de leur travail, mais il y avait une seule personne avec un contrat précaire qui s'occupait de la pêche. Ça pose un vrai problème quand même. La départementalisation a voulu nier une culture mahoraise, mais il faut retrouver la culture mahoraise. La culture mahoraise, qu'elle soit maritime, terrestre, elle est là et elle doit être au cœur du projet.
depuis que j'étais petit. Petit à petit, j'ai fait la pêche à la ligne, j'ai commencé la pêche dans les rochers petit à petit et j'ai grandi. J'ai trouvé des amis, ils m'ont apporté dans un pirogue petit à petit, ils m'ont appris comment on pêche, comment on attache les hameçons, comment on fait l'appât petit à petit. J'ai grandi et j'emprunte petit à petit dans mon cerveau. Quand je suis venu grand, j'ai commencé déjà à travailler la pêche, à m'aider ma mère petit à petit.
Ahmed Oumadié Mortada, pêcheur en Joanet.
Quand je vais à la pêche avec une pirogue de pagaie, parfois, un jour, j'attrape 10 kilos, 20 kilos, 5 kilos. Je paye l'électricité, l'eau, avec ça. J'achète n'importe où avec mes moyens que je trouve à la pêche. J'ai même élevé mes enfants avec la pêche.
Donc, quand vous dites que vous avez éduqué vos enfants, c'est que c'est la pêche qui vous a permis de les emmener, de les envoyer à l'école.
Exactement. Mais là, ils ont commencé de limiter. Ici, tu ne peux pas les pêcher. Je ne sais pas comment on va faire. Vous voyez cet îlot qui est là. Quand on va sur l'îlot là, je ne peux pas bouger même pas 10 mètres parce que si je sorti ici jusqu'à l'îlot, c'est déjà 300 mètres.
Vous êtes limité à une distance de 300 mètres.
300 mètres.
Vos pirogues sont considérées comme des engins de plage.
Oui, oui, je sais. Un jour, j'étais allé à la mer avec mon ami là. Dans l'îlot, là, on prend des cailloux pour préparer à aller. On voit les gendarmes, ils sont venus. Monsieur, venez. C'est interdit de pêcher la nuit. Mais je me dis, pourquoi? Tout l'éclairage, la nuit, tout ça. Mais non, non, c'est interdit, c'est la loi. Oh, vous pouvez pêcher tout juste là. Je dis, monsieur, si je pêche là, je retourne à la maison.
Oui, parce qu'il n'y a pas de poisson dans...
Dans l'îlot, sur les cailloux, là, que je pêche là. Non, non. Mais quand les jeunes de Maori voient ce qui se passe à la mer, les gendarmes ou les... n'ont pas envie d'aller à la mer. Mais il y a des poissons. Mais ils ont limité, ils ont tout de problèmes. On ne sait pas. Imaginez, si c'est votre travail, quand tu étais allé à la pêche depuis le matin, midi ou 3 heures, tu as pêché les poissons, si pas 20 kilos, 3 kilos, ils ont venu, monsieur, jette tout ça dans la mer. Et tu prends les poissons toi-même, tu les jettes. Jetez! Je ne jette pas, jetez! Un à un, ça va terminer. Allez, retournez à la maison. Ton kir, on voit comme deux couteaux qui, toi-même, que tu as pêché ton poisson, tu les prends toi-même, ils te forcent, jetez tout ça! Vraiment, on voit comme. Je ne sais pas comment vous dire, tu sais.
Ça vous fend le cœur.
Comme deux couteaux qui me cassent. Dieu n'a pas dit comme ça qu'il m'a limité. Moi-même, je peux. Putain, c'est pas normal. C'est pas normal.
Mais malheureusement, on a des règles. Nous sommes à Mayotte, nous sommes dans l'océan Indien, mais attention, nous sommes en Europe. Avec des règles qu'il faut respecter. Pour continuer à être pêcheur ou à pratiquer le métier de pêcheur, il faut prendre un permis de pêche. Or, récemment, si on n'a pas la nationalité française, on ne peut pas avoir accès à ce permis de pêche. Et il y a beaucoup de pêcheurs qui maîtrisent très bien la pêche, mais qui sont dans une situation illégale. Ils ne peuvent pas avoir ce permis de pêche. Les sous que la France reçoit par rapport à l'extraction, entre guillemets, du poisson, n'arrive pas dans les caisses des associations de pêcheurs à Mayotte. La France utilise ces sous. Récemment, il y avait un article de journal. On dit que ces sous ont été investis pour acheter les bateaux pour la police aux frontières. Donc, un autre réinvestissement qui montre la complexité d'un territoire.
Notre nouveau bateau.
Ouais. Donc on est là, on a arrangé le bateau pour qu'on descende pêcher ou voire même continuer nos plantations de corail. Donc c'est un moyen plus simple, mais voilà, c'est un moyen qu'on a pu trouver pour pouvoir ramasser presque tous les déchets qu'on a sur le récif corallien.
Chaga, président de l'association des jardins océaniques de Mayotte.
Ici, à Mayotte, nos parents, ils ont toujours voulu nous pousser à ne pas aller à la mer. Et le fait que voilà, on nous met cette interdiction, ben nous, ça nous poussait à vouloir découvrir pourquoi on nous interdise, pourquoi ils veulent pas qu'on y aille là-bas. Donc j'ai commencé à aller nager, à aller piquer des têtes en dehors du village pour pas que je me fasse prendre. Et nous, on rentrait à la maison avec les yeux rouges, parce que quand on plongeait, on ouvrait les yeux.
Vous n'aviez pas de masque et de tuba?
Non, à cette époque, on ne connaissait même pas c'était quoi le PMT.
PMT, oui. Palme, masque, tuba.
Palme, masque, tuba. On ne connaissait pas du tout c'était quoi. Donc, on allait jusqu'au tombant.
C'est quoi le tombant?
Le tombant, c'est sur la première barrière de corail. Dès qu'on finit le platier, on a ce tombant qui, à certains endroits, il fait 3 mètres. Et à d'autres, ils peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Et c'est trop beau, ce qu'il y a en bas. Tu commences, tu as des couleurs magnifiques qui sont un peu verdâtres, blancs. Et d'un coup, c'est le noir total.
Et donc, lorsque vous rentriez à la maison...
On avait quelques traces de sel qui étaient sur le corps. Et nos mamans, ils nous goûtaient. Ils passaient la langue sur l'avant-bras. Et ils sentaient le goût du sel. Donc pour nous, on s'était dit, oui, mais si tu sens le goût du sel, c'est sûrement la sueur. Donc on avait toujours les mots pour pouvoir s'en sortir. Mais elles étaient plus intelligentes que nous. Donc voilà, on se faisait toujours attraper. Mais c'était marrant.
Vous étiez puni?
Ah oui, la punition, elle était sévère. Elle était très sévère. C'était des coups parce que voilà, nos mamans, elles s'inquiétaient pour nous. Mais une fois qu'on ne sentait plus les coups qu'on avait pris la veille, le lendemain, on repartait dans l'eau. Donc c'était ça. En fait, nous ici, c'était vraiment Tom et Jerry. C'était Tom et Jerry parce qu'on kiffait trop le lagon. On a trop aimé le lagon. Se retrouver en plein milieu de l'océan, franchement, on était libre de tout.
Guillaume Blanc, dans un de ses livres, disait « Plus on détruit la nature ailleurs, mais plus on a envie de la protéger à un autre endroit. » Mais on voit que souvent, cette ingérence externe, cette vision occidentale de protéger l'environnement ne correspond pas du tout à ce qui se passe sur le plan local. Quel est le rapport des habitants à la mer? On dit souvent, mais les Maorais tournent le dos à la mer. Les Maorais ne savent pas nager. On dit souvent cela. Mais il faudrait aller leur poser la question. Ça représente quoi, l'eau de la mer à Mayotte? La mer est une source purificatrice. Les baos qui étaient utilisés à l'école coranique, les tablettes pour écrire, on ne les nettoyait pas dans les rivières parce que les rivières sont sales, mais on les nettoyait au bord de la plage, là où il y a l'eau de la mer qui enlève toute écriture. Les femmes, 40 jours après l'accouchement, vont se purifier à la mer. Il y a également la circoncision. Quelques jours après la circoncision, on amène le garçon à la mer. C'est le tissu qui autour va s'enlever plus facilement. Mais c'est vraiment la mer une source purificatrice. Or, on interroge très peu ce côté du rapport local à l'environnement. Et peut-être, on reste dans des stéréotypes, les Maorais tournent le dos au lagon. Or, il faudrait vraiment faire des recherches qualitatives et pas quantitatives pour mieux comprendre ce qui se passe, quelles sont les pratiques des habitants, quels sont les obstacles qu'on pourrait avoir au niveau local. On parle de cette sensibilisation à l'environnement, de éduquer à l'environnement. Les habitants ne sont pas des enfants, on ne doit pas les infantiliser. Donc, écouter les habitants pour savoir comment faire. Quelqu'un disait... la population doit être avec nous. Alors, je pense que c'est une faute de dire cela. Ce n'est pas la population qui doit être avec nous. C'est à vous d'être avec les habitants, de les écouter et de comprendre de l'intérieur sans juger.
Alors quand est-ce que l'océan, le lagon, devient un peu plus qu'un espace de loisirs, de jeux, d'interdits, d'amusement?
Mais c'est au moment où je suis rentré dans la ville de Brest, la première ville auquel j'ai mis les pieds à Métropole.
Vous aviez quel âge?
J'avais 15 ans à cette époque. Et je suis allé là-bas.
Il n'y a pas de lagon là-bas. Hein.
Non, il n'y a pas de lagon, c'est l'océan. Mais je remercie M. Barthélémy et son équipe à Océanopolis. Ils ont quand même réussi à amener le récif corallien dans la ville de Brest.
Certes, vous visitez Océanopolis. L'aquarium de Brest, mais comment vous rencontrez M. Barthélémy qui à l'époque en est le directeur, c'est ça?
C'est le cofondateur et lui aussi c'est un biologiste et conservateur corallien. Mais je l'ai rencontré parce que voilà, il faisait une conférence, il parlait du récif corallien, il parlait du bouturage. Et en fait, j'étais jaloux. J'étais jaloux, moi qui suis né sur une île, qui a grandi à côté du lagon. Et voir quelqu'un qui n'a pas eu cette possibilité-là raconter le récif corallien mieux que moi qui a grandi. Donc j'étais jaloux. Et à partir de là,
Vous vous êtes passionné à ce moment-là.
À partir de là, je me suis passionné de ce récif corallien et on en cherche à faire un métier aujourd'hui.
Et donc, vous avez créé une association à la fois de sensibilisation, mais également...
Également à faire du bouturage corallien. On bouture et là, ça fait 5 ans qu'on existe. Et on a quand même bouturé un bel espace. On a déjà atteint les 500 mètres carrés.
Mais comment avez-vous appris à bouturer du corail? Ça ne se fait pas comme ça, j'imagine. Comment ça se passe?
Non, ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est avec M. Barthélémy, parce que je ne l'ai pas rencontré qu'une seule fois. Je l'ai rencontré à maintes reprises. Et vu que j'étais pris de passion par ce qu'il faisait, toutes les semaines, je passais au moins 2-3 jours par semaine à Océanopolis. C'est avec ces gens-là que j'ai appris à faire le bouturage corallien. C'était pour compenser mon manque d'études dans le milieu biologiste.
Comment on fait pour bouturer du corail?
Nous, pour bouturer le corail, on va toujours sur le récif. On regarde les zones où c'est abîmé. Parce que les calamars, ils vont pondre leurs œufs là. La tortue, vu qu'il veut manger les œufs de calamar, il vient comme un bourrin, il casse tout. Les poissons perroquets, ils mangent aussi les périttes, ils mangent la Cropora, ils croquent aussi un peu sur les périttes.
Et on les entend même quand on est sous l'eau.
Justement, on les entend. Et à partir de là, on va récupérer ces morceaux-là. On les amène à la surface, on les regarde, est-ce qu'ils n'ont pas trop de taches, qui est aussi une maladie pour les coraux. Et surtout, on fait le maximum de ne pas les manipuler avec à main nue. Parce qu'on peut aussi les transmettre, les bactéries qu'on peut avoir. On l'arrange, on les coupe comme il le faut. On prend de la roche volcanique, on perce la roche, on met un fond de colle.
De colle ?
Résine, pour maintenir la bouture debout, droite. Et à partir de là, on les remet dans l'eau. Tout simplement. Et ça pousse. Et ça pousse. Donc...
Est-ce que lorsque vous créez votre association sans autre compétence que votre passion, vos rencontres à Océanopolis, est-ce que ça appelle l'attention, notamment du parc marin? Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous êtes encouragé? Comment ça se passe?
Non, je ne suis pas du tout aidé. Parce que, en premier lieu, je ne suis pas biologiste. Le fait que je ne sois pas biologiste, je suis mal vu. Sauf que là, c'est notre monde, c'est autre chose. Et ce que je suis en train de faire, ils voient le résultat derrière. Je ne le fais pas par folie. Je le fais parce que voilà, Mayotte a besoin de ça. Aujourd'hui, on a créé l'association. Et le fait qu'on a créé l'association, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes commencent à être attirés. Mais c'est juste les aides qui ne viennent pas. Parce que... Non, c'est pas à nous. Nous, on ne fait rien de mal. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est donner un second souffle à cet écosystème qui est vieillissant, à cet écosystème qui est très menacé, pas que par la main humaine, par le réchauffement climatique. Donc, on bouture, on a les résultats, mais on nous interdit quand même de travailler.
Comment le parc marin est-il perçu ici?
Parfois, au niveau des habitants, le parc il est perçu comme l'établissement qui interdit certaines activités, qui potentiellement pourra dire c'est fini avec cette activité de pêche.
La pêche aux poulpes, par exemple.
Voilà, la pêche aux poulpes. Donc on dit souvent que le parc il est là pour nous empêcher de faire nos activités, de continuer avec nos traditions. J'imagine que le parc il est au courant de ça. Ils essayent de co-construire avec les habitants, mais ça prend du temps à faire une co-construction avec les habitants. Donc essayer de voir comment je peux mieux avoir un dialogue avec les habitants, qu'il s'agit des femmes qui pêchent au Jarifa, des pêcheurs. Quel est le rapport des jeunes Mahorais par rapport au lagon? Il y avait une étudiante mahoraise qui disait « J'ai fait une sortie bateau avec une Muzungu qui m'a montré les beautés de mon lagon. » Nous, on utilise le lagon d'une autre façon. Peut-être cela m'a donné envie. Mais il faut aussi se poser la question « Combien ça coûte pour faire une sortie baleine ?» Quels sont les prix de ces sorties? Quel est le temps que nous avons à disposition pour aller pratiquer ces loisirs? Parce qu'à Mayotte, on n'a jamais le temps. À Mayotte, on vit en communauté. C'est la communauté qui prime et pas l'individu.
Bon, bah, je me présente, je m'appelle Antonin. Je fais quoi dans la vie? Je suis économiste, je connais quelques personnes ici. Et c'est la première fois que je fais un bivouac tortue, voilà.
Bonsoir, Christelle, je suis professeure en lycée professionnel. Et c'est mon premier bivouac tortue aussi.
Moi, c'est Noémie, je suis sage-femme et premier bivouac.
Moi, je suis Joël, premier bivouac. Je suis sociologue sans emploi.
Moi, c'est Eugénie, je suis sage-femme et c'est mon premier bivouac également.
Moi, c'est Emma, je suis sage-femme à Mamoudzou et c'est ma deuxième expérience en bivouac.
Bonsoir, moi, c'est Mohamed Dakim et je suis en contrat-pec. Donc, je suis chargé de la logistique, tout ce qui est cuisine et tout ce qui est transport aussi pour le bateau.
On peut lui dire merci pour le repas.
Merci.
Merci,
merci. Chef.
Plage de Sazilé, Mayotte, sud de l'île de Grande-Terre, l'association des naturalistes emmène les touristes voir les tortues pondre.
On est quand même dans un pays dont la densité est grosso modo de 1000 habitants au kilomètre carré. Et arriver à trouver des endroits naturels où il n'y a aucune perturbation humaine, comme vous allez l'être ce soir, c'est pas fréquent. Toute la presqu'île ici est sans aucune habitation permanente. Et on se bat vraiment pour qu'il n'y en ait aucune, aucune. Même un banga de rien du tout. Parce que quand ça va commencer, après vous savez commencer, ça va essaimer partout. Même si je reconnais qu'il faut de la place aussi pour que les gens puissent s'installer. S'ils s'installent, il n'y aura plus de tortues.
Michel Charpentier, président de l'association des naturalistes de Mayotte.
Alors ça peut être à n'importe quelle heure. Donc on vous réveillera quand vous entendrez « tortue, tortue !» de manière pas forcément très amicale. Vous saurez qu'il faut sortir du lit en vitesse et on va sur la plage. Pour aller sur la plage, vous pouvez vous éclairer jusqu'à la plage. Après, tout est interdit. Aucune lumière et je vous dis, tenue sombre le plus possible. On est en pleine lune complète, donc faut vraiment être le plus discret possible. On voit beaucoup mieux, mais les tortues voient aussi beaucoup mieux. Des questions ?
Ouais. Quel intérêt vous avez à nous faire faire ça, si ce n'est nous sensibiliser ? Est-ce qu'on n'est pas un peu parasite pour elles ? Genre de venir, non, etc., ouais. Même si on est encadré ?
On l'est forcément. Ça, c'est d'une manière générale aussi le problème de la protection de la nature. Tu peux vouloir la protéger en mettant une cloche de verre par-dessus et puis en disant « interdit à tout le monde », ce qui serait pas mal. Mais en même temps, les gens comprennent pas, tu vois, pourquoi il serait interdit d'aller en forêt de Fontainebleau, par exemple. Franchement, on prend suffisamment de précautions pour éviter qu'il y ait trop d'impact sur elle. Mais il faut quand même que tout le monde en profite. J'essaye d'ailleurs, beaucoup plus encore que des Mzungu, j'essaie de faire venir des Mahorais pour qu'ils prennent conscience de l'importance exceptionnelle qu'ils ont avec cette population de tortues. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, en 2023, on a eu 3300 pontes sur l'ensemble de l'année, rien que sur cette plage-là.
On se pêche! Vous pouvez venir deux par deux.
On vient juste de commencer. Regarde. Elle contracte sa queue, elle pousse et elle éjecte deux œufs. Alors parfois c'est un, parfois c'est deux, parfois c'est trois ou quatre. Tout dépend comment elle pousse évidemment. Là, c'est juste le début.
Et là, il y en a quand même pas mal.
Il y en a une dizaine, oui. Je te demande de laisser ta place à d'autres.
Vas-y.
Tu les as vus, un peu plus. Oh là là. C'est génial, on y va au coup d'après. Ouais,
elle est sourde, hein, donc vous pouvez y aller, vous pouvez parler.
Ah oui, c'est vrai. Ça garde un peu plus de mystère.
Ouais.
Tu veux y aller? Vas-y. Je te rejoins, Emma. Je suis trop contente d'être là. C'est incroyable, on est là sur la plage. Regardez des tortues, quoi. Dans la mer.
Des étoiles. Chaud, c'est une expérience de fou.
Mais là, il est tout seul. Ah non, ils sont trois. Je sais, c'est à moi la prochaine.
Ah, tu y es pas encore allé?
Non. C'est hyper bon. C'est marrant. C'est la... Ouais, la bouche des balles de ping-pong, quoi, visqueuse, ouais. Quoi. Non, mais vraiment, dans un trou. Enfin,
c'est trop stylé.
Il y a quand même sa lampe torche qui éclaire son huc.
C'est pas son cul, du coup.
Bah non, mais bon, c'est l'arrière, quoi.
Ça, c'est grosse chatte.
Elle voit pas trop.
Mais c'est incroyable, hein.
Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable comment on en sort deux d'un coup, comme ça, mais t'as l'impression qu'elle fait aucun effort. C'est fou.
Bah, elle fait pas de bruit, mais apparemment elle pousse quand même pas mal.
Elle pousse, mais elle ressent pas trop de douleur à ce qui paraît.
Qu'en pensent les sages-femmes?
Bah, je suis impressionnée, si toutes les femmes pouvaient accoucher comme ça, ça serait royal.
Ça serait plus simple.
Sans bébé d'un coup.
Ça a pas l'air si douloureux.
Alors, Nathalie,
je sais. Incroyable, je suis très émue en fait. Très très émue. Ça m'a rien. Je me demande comment finalement elle apprend tout seul à faire ça. C'est incroyable. Pour sans eux, elle se sert d'abord de ses pattes arrière, puis de ses pattes avant. C'est incroyable. On a beaucoup de chance d'assister à ça.
Qu'est-ce qui se passe, Michel?
Là, il est en train de reboucher le nid en ramenant du sable sur les œufs et en tassant. L'objectif de l'opération, c'est d'essayer de faire en sorte que des prédateurs ne puissent pas repérer l'endroit où elle a fait son nid.
Brûler tous ces gros, tout le monde s'en fout. Les tonnerres grondent la pluie, le vent des feux partout. De catastrophe en catastrophe, c'est le chaos. Les gouvernants sont indécis, tout le monde s'accuse. Les volcans en éruption, tout en action. La force de la nature prend tous ses droits. L'atmosphère en globe trotteur et tout s'efface. Plus d'animaux, plus de végétaux, c'est le néant. Que dire de nos îles dites paradisiaques, transformées en plusieurs poubelles dans l'océan. Plus de corail, plus de poissons, adieu pêcheurs. Le tsunami vient balayer tous nos péchés. Tout le monde s'en fout. Et voilà, tout le monde s'en fout.
Le lendemain matin, sur la plage de Sazilé...
Oh! Attends, elle va s'en sortir.
Mais elle va jamais se remettre droite.
Si. On va lui laisser sa chance.
Que se passe-t-il?
On n'a pas beaucoup d'espoir de survie pour cette petite tortue.
Ouais, elle est déjà en retard.
Elle a donné beaucoup d'énergie pour sortir de son trou.
Et là, le sable est chaud, ça va être compliqué pour elle, et déjà si elle se retourne comme ça.
Elle est dans une fâcheuse posture. Hein.
Et si on lui met un petit talus de l'autre côté, comme ça, hop, elle se retourne comme ça.
Allez,
allez, vas-y.
Allez, un coup de nageoire.
Allez, vas-y, bobasse.
Ça paraît quand même compliqué comme.
Mais ouais, elle arrive à peine à marcher déjà.
Ça, c'est sûr que c'est un Yann.
Pourquoi vous l'avez appelé Yann?
Comme elle a du mal, on s'est dit que c'était peut-être un mec.
Un petit coup de bâton sur le côté et
on la retourne. On l'aide un peu. Il a dit quoi, Michel?
Il a dit normalement elle est en capacité de se retourner elle-même. Ouais. Mais si on voit que ça dure trop longtemps.
Ouais, ça fait déjà un quart d'heure.
On peut aider avec une brandy, mais tout doux, tout doux, tout doux.
Ah, là, ça pâte, ça pâte.
Oui!
Allez, ça part.
Mais là, elle est face à un monticule impressionnant.
Allez, Yann.
Quelle est la situation là, Noémie?
Alors actuellement, la tortue est en pleine direction, pleine balle vers l'eau. Sous l'ombre de Chloé. Et sous une piste bien humidifiée par Emma. Pour l'instant, je pense qu'elle s'en sort bien malgré sa prématurité. Je pense qu'elle a des bonnes chances de survie.
Après, il faut qu'elle apprenne à nager encore.
Hein. Je peux vous dire qu'elle a des réserves.
Allez.
Oh là là.
Elle est trop fatiguée.
Mais là, elle croit qu'elle est dans la mer déjà.
Mon avis, non, non.
Je pense qu'elle va mourir.
Elle est, oui, je crois qu'elle est en fin de vie. On va la mettre quand même dans l'eau parce que là, elle ne bouge plus du tout.
Oh non.
On a agi trop tard.
Elle bouge sa tête, là.
Elle bouge sa tête. Ah. Allez.
Ouais. Allez, fais-nous
mais
mentir.
Mais je pense qu'il faut quand même qu'on la mette.
Oh non.
Cata.
Aïe, aïe, aïe.
Hop, regardez.
Ah, regardez.
C'est des signes de lutte, hein. Elle est morte, hein.
Mais non, mais...
Bah, elle bouge pas, là. Hein.
Bah, elle coule, hein.
Elle se fait balloter. Oui, elle est fond.
C'est trop dur.
Et
voilà,
non,
l'histoire se finit mal pour France Culture.
Oh là là.
L'histoire se finit mal pour France Culture.
Elle respire pas là, hein.
Elle est morte, hein.
Mais ça veut dire que c'est un vrai documentaire, tu vois. On change pas les faits. Pour avoir une bonne fin.
Là, comment veux-tu?
C'était Mayotte, dernier des départements, quatrième épisode, un lagon en partage, un documentaire de Raphaël Kraft et David Jakubowiez. Avec Abdallah Saïn Doubacha, Abou Chiabi, Oriane Serval, David Lorieux, Ankou Bouanidé, Chaga, François Bedard, Georgetta Stoïka, Jean-Eudes Beret, Ahmed Oumadi Mortada, Noémie, Eugénie, Emma et Michel Charpentier. Musiques originales Abou Chiabi, Totem et Nacho. Remerciements à Mustapha Mawinda, David Lorieux, Stéphanie Schuller, Daniel Gros et Bruno Sansonne. Mixage Antoine Viossa, chargé de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin.
Rema. Oh là là. Voilà. Là, on commence à voir quand même déjà la forme de ce que c'est qu'un laka. Mmh. Donc, mais c'est loin d'être fini là. Il reste quand même du boulot à faire. Mais on est là pour ça. En fait, ce qui me pousse vraiment à aimer ce travail, c'est que justement, quand je suis dedans, c'est comme si j'étais à côté de mon papa et on discutait ensemble. C'est mon héritage, quoi. Et j'espère qu'il est bien là où il est. Maintenant, quand il me regarde de là où il est, eh bien, c'est sûr que lui aussi, il doit être fier de moi. Donc voilà, je vais continuer.
Ija itanonga, ngeni lindao, itanonga. O wanzani waja, wanilahao, itanonga. Sikitifuni njia, onironzo wanama, itanonga. Banu gamwendoje, gamwendonde huwi, itanonga. Banu zinu kweli, hawinu tabiri, itanonga. Komoro, Komoro, inchi ya usalama, itanonga. Comoro, Comoro, ika kolonia mfaranta itanonga. Yeah.